Le moment de l'année est choisi et surtout est parfait pour une revue de l'année en compagnie de Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Bon Philippe, là c'est le temps de passer en revue ce qui s'est passé d'un point de vue sportif sur la planète sport, la planète internationale du sport. Et débutons avec le tennis parce que nous au Canada, ça a été une grande année au Canada, autant chez les hommes que chez les femmes. On a retenu l'attention et je veux débuter, je pense que nous devons débuter avec Bianca Andreescu qui a été dominante, qui a gagné, qui devient une icône au Canada au tennis.
Oui, tout à fait. Le tennis, c'est la grosse histoire sportive au Canada en 2019, aucun doute là-dessus. Et Jérémy, je pense qu'on a fait ce même bilan l'an dernier, puis peut-être qu'on s'est risqué aussi à quelques prédictions dans une chronique subséquente. Et si au mois de décembre l'an dernier, je t'avais dit, Jérémy, une de mes prédictions, c'est que Bianca Andreescu va gagner l'Omnium américain en 2-7 contre Serena Williams, je pense que tu m'aurais dit t'as peut-être trop célébré dans le temps de Noël, parce que je pense que personne n'aurait pu prédire ça. C'est la beauté du sport, la surprise. Mais cette jeune athlète a été absolument incroyable. Dès le début de la saison, avec sa victoire à Indian Wells, c'était spectaculaire de la voir jouer, puis de voir aussi comment elle réagit sur un terrain, ce désir de gagner. Là, tu te souviens, Indian Wells en finale contre Angélique Kerber, puis là, tout à coup, elle a un peu de misère contre Kerber, puis là, Sylvain Bruno, son entraîneur, va la conseiller entre deux jeux. Puis là, elle lui dit, là, tu sens qu'elle a la rage, elle joue pas comme elle voudrait faire encore mieux. Puis là, elle dit « I want it so bad, je veux tellement gagner. » Puis là, lui, il reste calme. Puis il dit « Ça, c'est très bien que tu veuilles gagner. Vas-y. » Et là, il dit, c'est là qu'il faut que tu saches, on se l'est dit souvent, c'est dur. Et là, tu arrives dans le moment clé du match, c'est quand l'esprit doit dominer le corps. Autrement dit, ton désir de gagner doit être plus fort que la douleur physique que tu éprouves parce que tu es épuisé. Écoute, ça a été extraordinaire. Cette scène-là, et la visite de Sylvain Bruno, elle a roulé en boucle, bon, à la télé, et sur le web, partout. Ça a été pour moi un moment vraiment magique de l'année 2019. Et là, fort de cette victoire, bien, Bianca Andreescu a poursuivi malgré des blessures importantes, blessures à l'épaule qui l'a empêché de jouer pendant plusieurs semaines. On se demandait même à un certain moment si sa saison n'était pas terminée. Revient à l'Omnium du Canada, la Coupe Rogers, gagne le tournoi et après, contre toute attente, faut bien le dire, remporte l'Omnium américain avec tellement de panache.
Parce qu'on regarde présentement, elle est classée au cinquième rang mondial, ouais. Bianca Andreescu. Et au premier rang, c'est Barty. Deuxième rang, Pliskova, Osaka, Alep. Écoute, il y a de la place peut-être pour Andreescu si elle est en santé. D'atteindre le premier rang mondial.
Tout à fait. Je pense que moi, je vois se dessiner la prochaine année si Bianca Andreescu est en santé, bien sûr. Là, on sait que déjà, il y a un petit pépin. Là, en début d'année, elle a retardé sa rentrée en janvier d'au moins deux semaines. Alors, on verra si elle pourra être en pleine forme pour les internautes d'Australie. Mais moi, je pense que la rivalité entre Bianca Andreescu et Naomi Osaka pourrait vraiment définir la prochaine décennie dans le tennis, ou en tout cas au moins les 5-6 premières années. Ce sont deux joueuses charismatiques, deux excellentes joueuses. Elles ont joué un match en Chine là, en toute fin de saison. C'était Osaka a gagné après que Bianca Andreescu a remporté le premier set. Ça a été vraiment un match fantastique qui a peut-être été un peu moins suivi parce que, bon, c'est le tournoi de fin d'année. Puis au Québec, c'était un matin de semaine que le match était présenté. Mais je vois ces deux joueuses-là comme les figures dominantes des prochaines années avec des luttes qui pourraient nous rappeler les grandes luttes du passé, que ce soit celle entre Steffi Graf et Arangsta Sanchez-Vicario, ou Justine Hénin, Kim Clijsters, les sœurs Williams, Lindsay Davenport. Il y a eu tellement de grandes luttes dans le tennis féminin. Et là, je pense qu'on pourrait peut-être en voir une nouvelle se développer entre Andreescu et Osaka.
Maintenant, que dire des hommes qui ont été tout simplement historiques pour la première fois de l'histoire du tennis au Canada? Eh bien, les hommes ont atteint la finale de la Coupe Davis face à l'Espagne. Ouais. Denis Shapovalov a été fumant. Vachek Pospisil a été fumé également. Félix Auger-Aliassime, lui, qui n'était pas supposé participer, a embarqué là-dedans aussi. Ça fait en sorte que les garçons également, ben, écoute, l'espoir est là.
Ah ben c'est plus que de l'espoir là quand t'es rendu que t'as deux joueurs canadiens aussi jeunes que Shapovalov et Félix Auger-Aliassime qui occupent un classement aussi avantageux. Shapovalov termine l'année en 15e place du classement de l'ATP. Félix Auger-Aliassime au 21e rang. Il a atteint jusque, il a été 17e à un certain moment. Mais pour Auger-Aliassime, ce qui est fantastique, c'est qu'au début de l'année, le 1er janvier de cette année, de 2019, il était 106e. Hey, Jérémy, il était 106e. Il s'est retrouvé 17e à un certain moment. Donc, une progression phénoménale. Je pense qu'un des hauts faits de l'année, ça a bien sûr été au tournoi de Miami, qui est un des tournois ATP 1000, donc un des 9 tournois les plus importants après les 4 majeurs, où Shapovalov et Félix Auger-Aliassime se sont rendus tous les deux en demi-finale. Ils ont perdu chacun de leur côté, mais quand même, de voir deux jeunes Canadiens en demi-finale d'un tournoi ATP 1000, c'était absolument inattendu. Alors, une saison magique. Ils ont eu des ennuis, néanmoins. Ça n'a pas été tout le temps facile. Shapovalov, après un bon début, a connu un passage à vide. Félix Auger-Aliassime aussi, ça a été un peu plus dur. Mais ça, c'est l'apprentissage. Les saisons sont longues, sont épuisantes. Mais je pense que l'important, notamment dans le cas de Shapovalov, c'est qu'il a terminé l'année en force. Il a remporté son premier tournoi en carrière. C'était en Suède. Et par la suite, en Coupe Davis, il a été fantastique. C'est lui qui a été le fer de lance de l'équipe canadienne. Et tu as tellement raison de rappeler le nom de Vacek Pospisil, parce que Pospisil revient de très loin. Il a subi de graves blessures. Il a eu des ennuis physiques importants, le dos notamment. Et de voir qu'il est revenu à un tel niveau, on l'a vu en Coupe Davis, là, où il a été extraordinaire en simple et en double, et ça a permis au Canada, avec l'aide de Shapovalov, d'atteindre la finale contre l'Espagne. Le Canada contre l'Espagne en finale en Espagne, et tu te retrouves contre Nadal, là. C'est quand même extraordinaire.
C'est historique, et surtout, ça fut fort plaisant de voir les garçons performer de la sorte. Bon, laissons le tennis de côté, parlons des Expos 2.0. Ce fut une année en montagne russe, je pense, pour les fans d'un retour potentiel du baseball majeur à Montréal. Par moments, on y croyait. Par moments, on était dans la garde partagée. Écoute, c'était une drôle d'année quand même.
Une drôle d'année avec vraiment un moment étonnant. Et c'est au mois de juin là, quand Stephen Bronfman et Pierre Boivin ont fait une conférence de presse au bureau de Claridge, là, la compagnie de M. Bronfman au centre-ville, pour annoncer que oui, c'était sérieux cette histoire de garde partagée. Le baseball majeur l'avait confirmé la veille ou l'avant-veille en disant qu'ils avaient donné l'autorisation au groupe de Tampa Bay et au groupe de Montréal de voir si un projet comme celui-là pourrait un jour se concrétiser. Et bon, là, il y a cette conférence de presse-là. J'y étais et je suis encore un petit peu sous le choc de la performance de M. Bronfman ce jour-là. Il avait été très convaincant. Il s'était, tu sais, on connaît son enthousiasme. Et là, il s'était lancé dans une longue explication sur l'économie de partage, puis qu'il fallait voir la business de façon différente. Et c'était vrai dans le sport aussi. Puis il disait, bon, aujourd'hui, là, tu sais, Airbnb puis Uber pour le transport, ça change. C'est l'économie de partage. Alors, on pourrait faire la même chose avec le baseball. C'était quand même un bon discours. Mais après, quand je suis ressorti de là, j'ai dit, coudonc, est-ce que j'ai été tenu sous hypnose pendant une heure de temps? Parce que quand tu t'y remets à y penser plus tranquillement, tu te dis, ça me semble, ça n'a pas de bon sens. Là. Une équipe qui arriverait à Montréal, mettons, si tu regardes la moitié du calendrier, là, on prend pour acquis que les 40 premiers matchs locaux seraient joués à Tampa Bay. Donc, ça veut dire que le premier match local à Montréal arriverait entre la Saint-Jean et la Fête du Canada. Potentiellement, l'équipe peut-être dans la course au championnat, mais peut-être aussi à 15 matchs de la tête à ce moment-là. Tu sais, ça part mal une saison locale quand tu es à 15 matchs de la tête. Alors, est-ce que ça pourrait fonctionner? Moi, je pense pas. Je pense que ça serait très difficile. Cela dit, Jérémy, je dois t'avouer que j'ai été ébranlé. Ébranlé au tout début du mois, durant les assises du baseball majeur à San Diego. Il y a le propriétaire des Rays de Tampa Bay, Stuart Stamberg, qui a donné une entrevue à plusieurs journalistes qui étaient là, qui voulaient en savoir plus long sur la situation. Et il a fait un plaidoyer en faveur de la garde partagée. Plusieurs médias en ont fait écho, le site The Athletic, la Tampa Bay Times aussi. Et il a fait une défense vraiment bien faite de cette idée, de cette notion de garde partagée. Et moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que lui, il dit, de toute façon, là, à part dans les 10 plus grandes villes américaines, ou peut-être nord-américaines, parce que je pense bien qu'on peut mettre Toronto dans ce groupe-là sans hésitation, il dit c'est très difficile de remplir un stade de baseball pour 81 matchs locaux. Alors, lui, il pense que ça pourrait être une tendance du futur, d'avenir des gardes partagées. Puis là, tu te dis, coudonc, peut-être qu'il touche quelque chose, tu sais, peut-être que ça pourrait même être éventuellement une solution pour Québec dans la Ligue nationale de hockey. Si ça ne fonctionne pas dans un marché dans le sud des États-Unis, puis qu'on trouve que Québec n'a pas les reins économiquement assez solides pour soutenir une équipe de la Ligue nationale à plein temps, pourquoi on n'irait pas en garde partagée? Moi, je ne pense pas que ça va arriver, mais je dois t'avouer que l'argumentaire qu'il a soulevé, la façon dont il a expliqué les choses, c'était plus convaincant que ce que j'avais entendu jusque-là de M. Bronfman ou de M. Boivin. Notamment, il a affronté, je veux juste compléter là-dessus, Jérémy, il a affronté de plein fouet la notion de la concurrence avec le Canadien. Tu sais, grosso modo, et là, je paraphrase, ce qu'il disait, c'est en avril, en mai, tu ne veux pas aller lutter contre le Canadien à Montréal.
Oui, malgré qu'avril-mai, tu fais une coupe de saison qu'il n'y a plus d'hockey ici.
Ça fait une coupe de saison.
mais tout ça pour dire, j'ai plus l'impression, puis je me souviens très bien de ce point de presse, et je retiens les paroles de Pierre Boivin dans ce point de presse où il a dit « Je sais que vous avez une multitude de questions, nous non plus, on ne peut pas y répondre. Ouais. » J'ai l'impression que ce qu'on fait du côté de l'organisation des Rays de Tampa Bay, c'est qu'on pousse le maire de Tampa Bay, en fait de St. Pete, à refuser. C'est ce qu'on veut, ouais, qu'il refuse, pour qu'on dise clairement « Excusez, on a offert une option, il a refusé l'option. » Donc, à partir de là, pour les avocats, trouvons une façon de sortir de là. Sinon, ouais, ça ne tient pas la route.
Ouais. Sauf Jérémy qui l'a dit une autre chose dans l'entrevue. Et ça, c'est le Tampa Bay Times qui a fait allusion. Il a dit « Je ne pense pas que Montréal soit prêt à accueillir une équipe à plein temps dans les ligues majeures. » Il dit « Montréal est la ville candidate idéale pour la garde partagée parce que l'été à Montréal, c'est le party, les festivals, les gens sortent, ils sont tannés de l'hiver. C'est vraiment tellement agréable. » Mais il dit « Je ne pense pas que Montréal soit la meilleure ville à l'heure actuelle en Amérique du Nord pour accueillir une équipe à temps plein. » Alors ça, je trouve que ça met un sérieux bémol sur cette théorie-là.
Bon, ben écoute, Philippe, si tu veux bien, on va faire une courte pause et au retour, question de faire un bon résumé de la dernière année dans le monde du sport. On parlait du Canadien. Non. Ça fait du bien, petit peu.
Ouais, ben oui.
On fait une courte pause. Reste là, Philippe. On est de retour aux amateurs de sport. On fait un bilan de la dernière année dans le sport en compagnie de Philippe Quentin. Bon, ben là, c'est le moment de parler sérieusement, Philippe. Pour parler du Canadien. Mon Dieu, on n'avait pas encore parlé du Canadien.
Non, non, puis on a encore des choses à dire.
Ben oui, ben oui, ben oui.
Écoute, après une victoire comme celle d'hier soir Philippe, à Winnipeg.
Comment tu vois cette dernière année chez les Canadiens de Montréal?
Assez décevante dans son ensemble. Il y a eu beaucoup d'espoir. Si on se reporte en février dernier, que peut-être que l'équipe pourrait participer aux séries éliminatoires. On sait que le Canadien a lutté assez longuement. Mais quoi, une dizaine de jours du fin de la saison régulière, il y a eu une défaite massue à Columbus contre les Blue Jackets. Et à partir de ce moment-là, on a tous compris que ça prendrait un miracle pour que le Canadien accède aux séries. Ce miracle-là n'a pas eu lieu. Pendant l'été, une demi-heure d'espoir avec la signature de Sébastien Aho comme joueur qui a passé un coup de vent, en fait.
Avec une offre hostile, oui.
Avec une offre hostile. Je pense que le Canadien a mal mesuré son coup. Encore une fois, on se souvient de la conférence de presse de Marc Bergevin quand il a annoncé, confirmé qu'il avait déposé cette offre hostile-là. C'était un peu avant la réponse officielle des Hurricanes là, qui disait qu'elle allait égaler l'offre. Bergevin essayait de convaincre tout le monde qu'ils avaient vraiment étudié la situation puis qu'ils croyaient qu'au bout du compte, ce que ça voulait dire, c'est que Caroline était vulnérable et puis peut-être qu'il, compte tenu de la structure du contrat, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent de payer dans les deux premières années, le 1er juillet 2019 et le 1er juillet 2020, en fait, dans un laps de temps de 12 à 13 mois, c'était 20 millions, plus de 20 millions qui étaient promis à Sébastien Aho. On pensait peut-être que les Hurricanes ne voudraient pas faire ces chèques-là. Je pense que l'offre n'était pas assez élevée. Il y a des niveaux d'offres pour les offres hostiles et puis on n'est pas allé au plus haut niveau. Je pense que c'est là qu'il aurait fallu aller parce que pour moi, un gars comme Sébastien Aho, oui, ça vaut 4 choix au repêchage, 4 choix de première ronde, d'autant plus que si tu as Sébastien Aho dans ton équipe, tu vas probablement participer aux séries éliminatoires. Donc, ton choix au repêchage, là, ça ne sera pas un des 16 premiers. Alors, pour moi, ça a été un peu... j'étais content de voir cette tentative-là, mais j'ai trouvé que c'était comme un demi-plongeon. T'sais. Tu plonges, mais tu ne plonges pas complètement. Tu plonges, mais je ne me mouillerai pas la tête. Je trouve que ça ressemble un peu à ça. Et ça, dans ce temps-là, c'est difficile d'impressionner. Puis par la suite, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu le départ de Ben, l'arrivée de Chiarot, avec le recul probablement que le Canadien est gagnant là-dessus. On verra si Chiarot continuera de pouvoir accumuler autant de minutes. Mais encore une fois, j'ai des doutes là, sur le court terme pour le Canadien. Puis on entend encore un peu le même discours. On ne veut pas laisser aller nos jeunes. Mais tu sais, tout à coup, l'équipe, et je pense que c'est mon collègue Alexandre Pratt qui le notait dans un podcast. Je pense, je me demande, Jérémy, si tu n'étais pas là d'ailleurs cette journée-là dans le podcast. Il disait tout à coup, là, c'est bien beau avoir autant de choix repêchage, mais tu as une limite dans le nombre de contrats que tu peux avoir dans ton organisation. Oui. Oui. Et tu peux les accumuler, les choix, bravo, mais tout à coup, il va falloir mettre ces joueurs-là sous contrat et tu n'auras peut-être pas assez de place pour tout le monde. Alors, il va falloir un jour qu'il y ait une transaction chez le Canadien, qu'on puisse améliorer l'équipe, qu'on accepte de prendre un risque jusqu'à un certain point en laissant aller un jeune pour essayer de combler des lacunes évidentes à plusieurs endroits. Mais pour cette année, bon, un peu de progression, quelques éléments encourageants, bien sûr. Suzuki, c'est le fun de le voir aller. Je parlais de Chiarot tantôt. Weber connaît une bonne saison. Mais est-ce que tout ça, ça va être suffisant pour permettre aux Canadiens de participer aux séries éliminatoires? Et si c'est pas le cas, ben on va dire l'an prochain, l'équipe va être encore meilleure. Mm. Oui, mais l'an prochain, Weber va avoir une année de plus. Puis une année de plus à son âge, ça paraît plus qu'une année de plus à 21 ans. Alors, tu sais, ça risque d'être un peu difficile encore pour le Canadien.
Ouais, penses-tu que si le Canadien fait pas les séries, c'est la fin pour Marc Bergevin?
Je sais pas, je pense pas, parce que j'ai l'impression qu'il a bien vendu son plan à Jeff Molson. Jeff Molson est un gars très patient. J'ai lu la biographie de son père, d'Eric Molson, là, qui est une biographie super bien faite, puis on retrouve beaucoup des traits de caractère du fils Jeff quand on lit la biographie de son père. Puis je pense qu'une des caractéristiques, c'est la patience. Souvent, on n'est pas content de comment ça se passe dans une entreprise. Eric Molson n'était pas content comment ça se passait dans les compagnies Molson, mais avant qu'il choque, puis qu'il mette son poing sur la table, puis qu'il dise « assez, c'est assez », ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que Jeff est un peu dans cette logique-là. Puis on voit aussi que Jeff Molson, et tu sais, moi, j'ai jamais été en faveur d'un président hockey pour le Canadien. Tu sais, je me disais toujours, tu sais, un bout de temps, on avait beaucoup parlé de ça. Est-ce qu'il devrait avoir un tampon entre Jeff Molson et Marc Bergevin? Tu sais, je voyais pas vraiment l'utilité. Puis de toute façon, avec Marc Bergevin, tant que lui est en poste, ça serait difficile de lui mettre quelqu'un hockey au niveau par-dessus lui, là, au niveau hiérarchique. Mais tu sais, aujourd'hui, je regarde comment le Canadien s'est diversifié comme business. Encore récemment, la semaine dernière, je pense, on a appris que bon, il y avait une entente de co-entreprise entre certaines activités de Live Nation au Canada avec Evenco. Bon, on échangeait des actions, puis on fondait une nouvelle compagnie et tout. Puis tout ça, c'est très bien, mais imagine le temps que M. Molson doit passer là-dessus. Là, tu sais, c'est des grosses affaires à brasser, c'est des décisions stratégiques fondamentales à prendre. Donc, on peut croire que maintenant, il passe pas la majeure partie de son temps sur le hockey à surveiller l'équipe de hockey. Puis c'est normal parce que c'est une compagnie, le groupe CH, qui prend une expansion formidable avec les spectacles, la gestion d'amphithéâtre, que ce soit la Place Bell, la propriété du Centre Bell. Ils font des concerts, le contrat de gestion du jazz.
C'est une grosse business.
C'est gros. Alors, wow. Tu sais, alors, on devrait pas tout à coup commencer à penser à faire un peu comme à Toronto, où il y a un président de Maple Leaf Sports and Entertainment qui, lui, gère toutes les filiales. Puis chacune des filiales, dont les Maple Leafs de Toronto, a son propre président qui est imputable. Et moi, je me demande si c'est pas ça que ça prendrait pour le Canadien, parce que là, à l'heure actuelle, tu sais, le directeur général, c'est clair, occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Est-ce qu'il devrait avoir un président hockey? Moi, je pense que... Je ne voyais pas l'utilité de ça là, il y a un ou deux ans, Jérémy, mais je regarde l'évolution de la compagnie là, d'un œil extérieur avec les nouvelles qu'on apprend, puis je me dis ça va peut-être être temps de revoir toute cette structure-là chez le Canadien.
Philippe, je sais que tu voulais nous parler des Blues de Saint-Louis, mais le temps file. Je veux nous garder. Il reste à peu près une minute. Je veux que tu nous parles de Tiger Woods qui, comme tel un phénix, renaît de ses cendres et remporte le Master.
Bon, voilà. Et moi, j'avais dit que Tiger ne remporterait plus jamais un tournoi majeur de sa carrière. Marc, je pense que j'ai déjà prédit la Coupe Stanley au Nordique. Alors, c'est pas. Mais j'ai l'habitude des prédictions qui se réalisent pas toujours. Mais ça a quand même été formidable. Ce qui m'a fasciné en 2019 avec Tiger Woods, Jérémy, aucun doute là-dessus, c'est la pression psychologique qu'il a mis sur ses adversaires. J'oublierai pas cette dernière round quand tous ses adversaires se sont tranquillement, là, je dirais presque liquéfiés devant l'attaque de Tiger Woods, et cette espèce de domination psychologique, je ne pensais plus qu'il l'avait. Force est de constater qu'il l'a encore, puis qu'il va être encore à surveiller au tournoi des maîtres cette année.
Philippe Quentin, encore une fois, excellent boulot. Je te souhaite un joyeux Noël. Merci du temps que tu nous accordes. C'est toujours un grand plaisir d'avoir la chance de te parler. Puis je te souhaite encore une fois un joyeux Noël à toi et toute ta famille.
Ben, puis permets-moi, Jérémy, de te retourner les vœux à Max en régie, puis à tous les auditeurs aussi, un très joyeux Noël.
Merci beaucoup, Philippe.
Salut.